Amen. Alléluia. Oui. Bonjour, docteur.
Bonjour, merci.
Oui, vous allez bien, je l'espère.
Oui, oui, grâce à Dieu, ça va.
Gloire à Dieu. Bonjour aussi, papa Stéphane.
Bonjour, bonjour.
J'espère que tout va bien.
En tout cas, Dieu fait grâce.
Voilà, cet après-midi, nous sommes très joyeux de vous voir encore. Vous nous avez bénis durant 4 dimanches. On a commencé notre série « Vices et vertus ». Et pendant 4 dimanches, vous nous avez bénis avec des enseignements puissants qui, je suis très sûr, que ça a apporté quelque chose de nouveau dans notre vie spirituelle. Alors, la jeunesse de Gomaville était très attentive. Plus tarder, je commence déjà avec une question que l'un de nos jeunes a posée. Et la question s'adresse particulièrement au docteur Abel. Est-ce que d'abord on peut acclamer Dieu pour le docteur? Oui, il faut acclamer Dieu. Voilà. Voici donc la question qu'un jeune de notre paroisse a posée. Il a dit ceci par rapport à l'intervention du docteur. Il a dit ceci. Après avoir suivi l'intervention du docteur Abel sur l'alcool, nous avons compris clairement que l'alcool, pour un chrétien, était un péché. Ma préoccupation concerne les militaires. Eux qui mènent une vie trop différente à la nôtre. Une vie guettée en permanence par les stress et les traumatismes intenses, surtout en période de guerre. En se basant sur la situation de David qui a mené une vie de militaire, pour qui il a même été interdit de construire les temples parce que ses mains étaient pleines de sang. Des sens humains, mais qui est resté l'homme selon le cœur de Dieu. Est-ce que les militaires auront un autre jugement que les nôtres? En tout cas, une question stroboscopique. Stroboscopique. Oui, papa docteur, c'est ça la question qu'un jeune de la paroisse a pu poser. Alors, nous aimerions savoir ensemble, est-ce que les militaires auront un autre jugement, pardon, que les nôtres. Voici donc la question. Vous avez la parole, docteur.
Merci. Merci pour l'intérêt pour ce sujet. Merci beaucoup pour les questions. Je pense même que cette question, on peut ajouter la suivante, parce qu'il y a une question qui a suivi qui parle de... je pense qu'il y a un médecin qui a posé la question pour savoir s'il estime qu'il doit prescrire de l'alcool pour un patient qui a un problème de cholestérol. Est-ce qu'il doit laisser le patient mourir ou bien il doit lui prescrire de l'alcool? Eh bien, bon, je pense que ces deux questions sont similaires parce que à la base de ces deux questions, vous voyez, il y a la justification de la consommation de l'alcool pour des problèmes de santé. Bon, l'apôtre Paul, s'adressant à Timothée, il va recommander lui-même à Timothée, il dira, je te recommande de ne pas boire que de l'eau, mais de prendre un peu de vin pour tes problèmes d'estomac. Alors, mon point de vue, ce n'est que le point de vue de la parole de Dieu, selon lequel, si vous avez un problème de santé, je ne vous demande pas d'aller chez un fournisseur d'alcool. Allez voir un médecin. OK? Vous allez voir un médecin. Si ce médecin-là vous prescrit une certaine quantité d'alcool, gloire à Dieu. OK? Oui. Il y a des substances que nous consommons, même la drogue, il y a des substances que nous consommons qui, dont la consommation, peuvent avoir des effets bénéfiques sur un organisme dans certaines circonstances et dans certaines proportions. Les mêmes substances que nous consommons, si vous les consommez, dans des proportions exagérées, elles deviennent nocives. Alors, mais souvent, le problème que nous avons dans l'Église, c'est que nous avons des enfants de Dieu qui prennent parfois la parole de Dieu hors contexte. Alors, ils se disent, voilà, comme l'apôtre Paul a recommandé l'alcool à Timothée, alors moi aussi, je suis en train de prendre l'alcool parce que j'ai des problèmes d'estomac. Bon, notre message, c'était de dire que nous devons, enfants de Dieu, développer une attitude qui est conséquente à l'Esprit de Dieu qui est en nous. Le problème avec beaucoup d'enfants de Dieu, c'est que ils cherchent à savoir quelles sont les circonstances dans lesquelles je peux prendre ce que j'ai envie de prendre. C'est ça. Alors, si vous êtes là, vous pouvez présenter n'importe quel cas, militaire, malade, vous pouvez multiplier les cas. Ce qui va vous aider, c'est de vous poser la question. Est-ce que j'ai encore soif de l'alcool? Posez-vous cette question-là. Lorsque l'apôtre Paul prescrit l'alcool à Timothée, ce n'est pas pour répondre à un besoin de soif de l'alcool. C'est pour répondre à un problème de maladie. Un militaire qui est traumatisé, qui va voir un clinicien ou je ne sais pas quoi, il est possible que le clinicien lui prescrive une substance qui est alcoolique ou bien même qui comporte une certaine dose de drogue. Il y a des malades à qui on prescrit, par exemple, le tramadol. Vous voyez? Mais le tramadol est aussi une drogue. Vous pouvez prendre ça et puis ça vous met dans un état ça vous met dans un état où vous n'êtes pas psychologiquement stable. Alors, le problème maintenant avec les enfants ou les chrétiens, moi je me pose la question. Vous êtes chrétien. Qu'est-ce qui fait que vous vous posez la question de savoir combien de verres je dois prendre? Alors, si vous êtes encore en train de vous poser la question jusqu'où je peux aller sans péché, eh bien, sachez que vous êtes dans la mauvaise direction. Vous devez tout simplement changer de direction. L'apôtre Paul disait dans Romains chapitre 5, que nous avons même 8, pardon, que nous avons lu la semaine passée, lorsque j'avais exhorté ici, que l'une des choses que l'Esprit de Dieu fait lorsqu'il vient en nous, c'est qu'il nous donne des affections, des nouvelles affections, de nouveaux désirs, de nouvelles soifs. Si vous êtes rempli de l'Esprit, et lorsque Paul dit ne vous enivrez pas de vin, et il recommande soyez plutôt, au contraire, il dit au contraire, ça veut dire être rempli de l'Esprit de Dieu, c'est incompatible parce que c'est contraire à être rempli de vin. Donc, si vous êtes rempli de l'Esprit, l'Esprit qui est en vous, qui vous remplit, va vous donner de nouvelles soifs, de nouvelles affections, de nouveaux désirs. Et ce sont ces nouveaux désirs qui vont vous pousser à la sobriété, à vous dire, voilà, je n'ai pas besoin de l'alcool. Alléluia. Alors, voilà un peu moi la réponse que je peux donner. Vous êtes médecin, vous voulez savoir ce que vous devez prescrire. Faites ce que votre profession vous demande de faire en toute âme et conscience. Mais si vous-même, en tant que médecin, vous avez un problème de conscience déjà à vous-même, sachez que Dieu est plus grand que votre conscience. Si votre conscience, en tant que médecin, vous accuse, à combien plus forte raison le Dieu qui vous a donné cette conscience vous accusera. Alors moi, mon conseil, c'est que faites ce que votre conscience devant le Seigneur vous conduit à faire. Mais soyez remplis de l'Esprit de Dieu. Si vous êtes remplis de l'Esprit de Dieu, votre jugement sera éclairé et vous n'aurez pas besoin qu'on vous dise « Ne prends pas la bière, ne prends pas l'alcool » parce que vous n'en aurez vous-même pas envie. Que le Seigneur vous bénisse.
Merci. Merci beaucoup, docteur. Merci pour la réponse. On va écouter aussi Papa Stéphane, si vous avez quelques mots à placer sur ces deux questions-là. Bienvenue.
En tout cas, je bénis beaucoup le Seigneur. Je bénis aussi la réponse du docteur. Seulement, je voulais peut-être directement m'adresser à la personne qui a posé la question ou au besoin aux gens qui posent cette question. Tout est question des niveaux de consécration. Je pense qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant que consacré à Dieu, nous devons développer certaines attitudes, nous devons adopter certains comportements. En disant ça, je suis en train simplement de dire ceci. N'essayez pas de justifier une faiblesse qui vit au-dedans de vous par des circonstances ou au moins des événements passagers. J'ai entendu qu'on a soulevé l'aspect d'un militaire. La personne qui a posé cette question, est-ce qu'il pense que c'est tous les militaires qui prennent de l'alcool? Parce qu'il ne faut pas qu'il justifie la situation du militaire et prendre l'alcool comme remède à son stress. Non. Je crois que lorsque on veut prendre l'alcool comme remède à un certain stress, en réalité, on est en train de vouloir couvrir ou justifier une faiblesse qui vit au-dedans de nous. Et je voudrais dire à quelqu'un ceci, ce que les faiblesses, on ne les cajole pas. Les faiblesses, on ne les entretient pas. Les faiblesses, on les tue. Une faiblesse que tu ne tues pas aujourd'hui, c'est elle qui va te tuer demain. N'essayons pas de justifier nos faiblesses en nous servant de certaines situations qui peuvent ou qui ne peuvent pas nous arriver. Tu ne peux pas te dire que cette situation doit nécessairement t'arriver. Et quand cette situation t'arrive, tu as déjà une porte de sortie appelée l'alcool. Frère, soit tu es chrétien, soit tu ne l'es pas. C'est clair. Deuxième chose, voyez-vous, lorsque l'on développe dans sa vie certaines faiblesses, ou lorsqu'on ne sait pas tuer certaines faiblesses, soit on crée sa propre religion. C'est comme ça que vous remarquerez que certaines personnes s'élèvent et ils vont vous dire, même Paul, comme le docteur a dit, même Paul a recommandé à Timothée de prendre un peu de vin pour le problème d'estomac. Je crois que depuis que tu as commencé à avoir des gastrites, c'est ce qu'on appelle ça gastrite, hein, tu es allé à la pharmacie. Je pense que le pharmacien ne s'était pas précipité pour te donner la première prescription appelée l'alcool. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ce n'est pas parce que Paul va dire à Timothée de prendre un peu de vin pour ton problème d'estomac que toi directement tu sautes à l'occasion. À chaque fois que tu auras des douleurs d'estomac, dans ta tête tu sais, le vin. On a un médecin ici, heureusement. Ah, tu n'es pas médecin. Voilà. Ah, ok. Mais imaginez, qui a un problème d'estomac ici? Soyez un peu pratique, frère. Il y a quelqu'un qui a un problème de gastrite ici. Nous sommes là. On veut être pratique. Tu es vraiment allé à la pharmacie. Et le pharmacien, avec son diplôme, 5 ans passés à l'université, il se précipite à première vue de te donner l'alcool comme remède. Pourquoi ce verset ressort quand on veut justifier une faiblesse qui vit au-dedans de nous et que l'on n'arrive pas à tuer? Je voudrais simplement nous dire ceci. Tout est question de consécration. Tout est question de consécration. Même toi qui penses que l'alcool est le remède numéro un aux maladies qu'il y a dans ton corps, ça dépend de ta consécration. Alors n'essaye pas de prendre ton cas et vouloir mettre le docteur Abel dans une situation où il doit généraliser afin que toi tu te retrouves dans tes faiblesses. Que Dieu nous bénisse.
Amen.
Merci.
Okay, merci. Merci beaucoup, Papa Stéphane, pour cette intervention. Je pense que nous sommes en train de comprendre. Alors, moi, j'aimerais juste qu'on puisse d'abord finir avec cet aspect-là d'alcool, parce qu'il y a une question ici qui dit, la Bible ne souligne pas directement la question de boire. Quel penchant prendre pour amener ceux qui sont dans les vices jusqu'au chevet de la sobriété? Est-ce que seul notre comportement suffit ou bien les Écritures, sachant qu'il y a des hommes de Dieu dans la Bible qui se sont livrés à l'ivresse? En tout cas, vraiment, cette question ici, il faudra avoir un peu de clarté. Bienvenue, docteur, pour répondre à cette question.
Merci beaucoup. Bon, j'aimerais d'abord réagir à la première phrase qu'il y a dans cette question, que la Bible ne souligne pas directement la question de boire. Bon, j'ai eu l'impression que celui qui a posé la question voulait dire que la Bible condamne l'ivresse, mais ne condamne pas le fait de boire. Bon. Eh bien, je veux vous inviter à lire avec moi Ésaïe chapitre 5. Ésaïe chapitre 5, verset 11. La Bible dit ceci. « Malheur à ceux qui, de bon matin, courent après les boissons enivrantes et qui, bien avant la nuit, sont échauffés par le vin. » Verset 22. « Malheur à ceux qui ont la bravoure pour boire du vin et de la vaillance pour mêler les liqueurs fortes. » Il y a beaucoup de passages. Hein. Je vais vous lire un autre dans Proverbes chapitre 23. Proverbes 23, verset 20. La Bible dit ceci. Je commence au verset 19. Écoute mon fils et sois sage. Dirige ton cœur vers la voie droite. Ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font excès de viande. Je peux multiplier les versets. Il y en a beaucoup. Alors, bon, mais le problème de ceux qui aiment l'alcool, ce n'est pas les versets. Ce n'est pas les versets. Le problème, c'est le désir qu'il y a en eux. Vous voyez? Et c'est ça le problème. Comme mon frère le disait tout à l'heure. Bon, si vous avez déjà décidé dans votre cœur que moi, en tout cas, mon affaire avec la bière ou avec l'alcool, ça ne va pas se terminer aujourd'hui. Même l'Esprit de Dieu va vous laisser. Oui, Dieu ne va pas forcer son conseil sur vous. Dieu ne va pas le faire. Vous savez, au ciel, il n'y aura pas de rebelles. Il n'y aura pas de gens qui sont au ciel malgré eux. Non. Donc, si vous-même, vous avez déjà pris une décision, vous dites, moi, en tout cas, moi, vous savez, moi, j'ai un membre de famille qui a déjà fait cette déclaration. Elle dit, si c'est seulement à cause de ça que Dieu va me refuser la porte du ciel, en tout cas, je refuse. Vous voyez? Alors, bon, qu'est-ce que vous voulez? Vous voyez? Alors, c'est un peu pour réagir à la première phrase, pour dire que non, la Bible ne fait pas référence au fait de boire. Si. Alors maintenant, le deuxième volet de la question, j'aimerais retrouver ça. Quel penchant prendre pour amener ceux qui sont dans... C'est ça?
Oui, oui.
Oui. Est-ce que notre comportement suffit, ou bien les Écritures, sachant que il y a des hommes de Dieu qui se sont livrés à l'ivresse. Bon, peut-être ils pensaient à Noé. Hein? Noé s'est enivré. Quel penchant prendre? Bon, La première chose, d'abord, je vais de vous le montrer. Il y a des passages bibliques qui nous interdisent de boire. Alors, le comportement, oui, le comportement est une bonne chose. C'est bien de prêcher par notre comportement. Vous ne pouvez pas être une personne, vous prêchez que ce n'est pas bon de boire de l'alcool et vous-même, vous faites le contraire de ce que vous prêchez. Là, vous détruisez votre message. Alors, est-ce qu'il y a des serviteurs de Dieu dans la Bible qui se sont enivrés? Oui, il y en a eu. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que nous allons nous retrouver devant le Seigneur avec des bien-aimés comme ça qui diront au Seigneur, moi je me suis enivré parce que Noé aussi s'est enivré. Et Noé va se tourner vers vous et vous dire, moi je l'ai regretté. Je l'ai regretté toute ma vie et je m'en suis repenti. Vous voyez? Faites attention, bien-aimés dans le Seigneur. Le modèle parfait que nous avons, c'est Christ. Il y a des exemples dans la Bible, il y a des exemples de serviteurs de Dieu qui ont servi le Seigneur, qui nous ont laissé un bon exemple à suivre. Mais n'allons pas fouiller dans les péchés, dans les faiblesses, comme mon frère le disait. Même de votre pasteur, même de ceux qui sont ici, n'allez pas puiser dans leur faiblesse qu'ils ont pour justifier ce que vous... Vous serez surpris devant le Seigneur. Vous allez vous retrouver devant le Seigneur avec des fardeaux, avec des péchés dont nous nous sommes repentis. Oui. Faites attention. Alléluia. Voilà. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à ajouter là-dessus.
Oui, bon, oui, on va écouter aussi Papa Stéphane s'il a quelque chose à placer là-bas. Sur cette question qui est en train de dire que la Bible ne souligne pas directement avec la suite.
Je crois que le problème, c'est par rapport à certaines expressions que nous utilisons vulgairement dans nos quartiers, dans nos universités. Okunye, lakini usilewe. Je crois que c'est là où il y a un problème. C'est là où il y a un problème. Et je voudrais peut-être... attirer l'attention de quelqu'un. Nous avons une identité à défendre. Nous avons une identité à entretenir. Et moi, je pense que, au lieu d'attendre à ce que tu considères que vous l'avez vu, je voudrais te dire que vous l'avez vu, comme haukukunya. Et les Français disent, un long voyage ne commence que par le premier pas. Je veux te dire que celui qui est devenu aujourd'hui buveur à outrance a commencé peut-être avec un petit flacon d'alcool. Si on doit utiliser les expressions, c'est l'appétit vient à manger. Alors, de grâce, je voudrais vraiment, vraiment encore le redire. C'est une question de consécration. C'est une question de ta relation avec Dieu. Crois-moi, depuis que j'ai commencé à voir les gens boire l'alcool, il y a plus de mal que de bien. Franchement, tu peux justifier tout ce que tu veux, mais depuis que je suis ici sur terre, tous ceux-là qui ont pris l'alcool, en tout cas, je plus vis beaucoup de mal que de bien. Mal contre eux-mêmes, contre ceux qui les entourent, contre même leur famille. Ce n'est pas toi qui feras l'exception.
Merci beaucoup.
Est-ce que je peux ajouter quelque chose?
Oui.
Vous savez, dans la bergerie du Seigneur, si nous considérons la bergerie comme un espace qui est clôturé, dans la bergerie du Seigneur, il y a plusieurs brebis, plusieurs catégories de brebis. Le Seigneur peut être ici, au milieu, si nous supposons que ce temple est la bergerie. Il y a des brebis qui vont chercher à s'asseoir à 0 mètre du Seigneur. Mais il y a aussi des brebis qui, eux, ils vont préférer rester au coin, à la clôture. Ils veulent voir ce qui se passe en dehors de la bergerie. Donc, il est dans la bergerie, mais il préfère rester à la clôture.
Pour ne pas rater les deux.
Il fait comme les s'il veut avoir les deux en même temps. Alors, il y a des enfants de Dieu qui sont comme ça. Il est venu au Seigneur, mais il regrette encore le monde. Chaque fois que quelque chose se passe dans le monde, il souffre pas à cause de la persécution. Non, il souffre parce que le monde lui manque. Le monde lui manque. Il n'a pas encore connu l'amour de Dieu dans sa plénitude. Et je voudrais vraiment vous encourager, parce que quand vous avez une telle attitude, c'est difficile de grandir. C'est très difficile. Vous savez, Judas a été à côté du Seigneur pendant 3 ans, mais il a fini par se pendre. Pourquoi? Parce qu'il était dans le cercle du maître. Il était là quand le maître envoyait, allait faire des miracles, allait prêcher. Il était là, mais son attitude vis-à-vis de l'argent. Non, il n'avait pas encore divorcé avec la cupidité. Ne soyez pas de ces brebis qui préfèrent rester à l'enclos, au coin. Rapprochez-vous du maître. Alléluia.
Amen, amen, amen. Merci beaucoup, docteur. Peut-être avant de passer à la question suivante, je voudrais juste quand même, je trouve que c'est important aussi de poser savoir sur cette question. Est-ce que les chrétiens qui vendent la bière, c'est un péché ou comment est-ce qu'ils vont faire? Parce qu'il y a des gens qui gagnent leur vie en vendant de la bière, en vendant de l'alcool. Quel conseil qu'on peut donner à ces genres de chrétiens?
Bon, est-ce qu'il a commencé à vendre l'alcool après sa nouvelle naissance ou avant? Bon, ça c'est la première, ça, il faut bien préciser. Bon, si vous êtes né de nouveau et puis vous avez fait le choix de commencer à vendre l'alcool après, je doute que votre choix ait été motivé par l'Esprit de Dieu. Je doute. Vraiment, je doute. Un enfant de Dieu, vous savez, la Bible dit, ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est une personne dont la vie... C'est une personne qui n'est pas maître de lui-même. C'est ça. Un enfant de Dieu n'est pas maître de lui-même. Un enfant de Dieu ne décide pas, je vais m'habiller comme je veux. Non. Un enfant de Dieu ne décide pas, je vais faire le commerce que je veux. Non. Un enfant de Dieu a un maître. Il a quelqu'un qui décide pour lui. C'est ça un enfant de Dieu. C'est-à-dire, même lorsqu'il veut commencer une affaire, il va consulter Dieu. Vous savez, David était un grand général, très fort, avec une grande armée. Mais lorsqu'il devait se lancer dans la bataille, il savait qu'il avait un berger. Il dit, je vais consulter d'abord Dieu pour savoir, est-ce que ça c'est une bataille que je dois livrer? Même si j'ai toutes les ressources, je dois d'abord savoir est-ce que c'est une bataille que je dois livrer. C'est ça l'attitude d'un enfant de Dieu. Donc, est-ce qu'un enfant de Dieu peut aller vendre la bière? Moi, je ne crois pas que l'Esprit de Dieu va pousser un enfant de Dieu à aller vendre la bière. Bon, si l'Esprit de Dieu vous a poussé à le faire, vous allez répondre de ça. Dieu, la Bible dit que nous serons jugés pour toutes les paroles, même les œuvres secrètes que nous aurons commises. Nous pouvons vous tenir ici et dire, Dieu m'a dit. Tout ce que vous dites en disant Dieu m'a dit, Dieu vous reviendra en jugement pour cela. Oui, il y a des gens qui disent Dieu m'a dit et Dieu leur demandera, moi je vous avais dit quel jour, à quelle heure, montrez-moi. Oui, faites attention bien-aimés dans le Seigneur. Donc si vous-même vous savez que vous ne pouvez pas consommer de l'alcool parce que l'Esprit de Dieu vous a convaincu que ce n'est pas une bonne chose. Pourquoi vous donner à l'autre ce que l'Esprit de Dieu vous a interdit? Moi, c'est la question que je me pose. Pourquoi vous donnez ce que l'Esprit de Dieu vous a privé? Pourquoi? Voilà.
Peut-être que, si je peux ajouter, je vais peut-être donner une image ou expliquer. Nous sommes nés dans des familles et le salut est individuel. Je crois que cela t'est déjà arrivé. Vous vous retrouvez dans une famille, tu es le seul sauvé, ok? Et que possible, papa prend encore de l'alcool. Mais vous remarquerez qu'avec le temps, c'est lui-même qui prend l'alcool évitera de t'envoyer aller le payer l'alcool. Il cherchera quelqu'un d'autre. Et il pourra même dégager une parole de moquerie. Mais dans cette parole de moquerie, il est en train d'affirmer ce que tu es devenu. Ah, où est, en tout cas, où est Toezi Moutou Mapombe? Au moins, où le Mwengine? Vous vous imaginez un peu ce que je suis en train de dire. Ça veut dire qu'à partir du moment où les gens sont en train de voir ta croissance dans le Seigneur, ton intimité avec Dieu s'est développée, il y a certaines réticences que des personnes vont développer à ton égard. Alors imaginez déjà que certaines personnes, au nom de l'intimité que tu entretiens avec Dieu, manifestent certaines réticences en termes d'actes, de gestes ou de paroles, toi-même qui mènes vie cette intimité-là, tu es en train de donner aux gens une occasion de saper ton intimité avec Dieu. Je crois que partout où Dieu nous place, nous sommes des ambassadeurs, comme Paul est en train de le dire. Nous sommes là pour représenter Christ, notre modèle. Imaginez que on a fait un bistrot. Parce que le problème, tout qu'on a jeté à foutre dans le cadre d'activités génératrices de revenus. Moi, je te pose la question. Le capital que tu as utilisé pour l'investir que dans cette activité-là, tu ne penses pas que ce même capital, tu l'aurais investi dans une autre activité, ça t'aurait généré quelque chose. Pourquoi choisir simplement ça? Tu justifies encore tes faiblesses. Tout est question de consécration, bien-aimé. Tu es consacré à Dieu, il y a des choses que tu refuseras. La consécration à Dieu nous permet même, nous amène même à un niveau de dire non à certaines choses qui déjà, au vu, n'est peut-être pas mauvais. Mais ma relation avec Dieu. Job dit quelque chose d'important. Je crois dans Job 31, il dit ceci. J'ai fait un pacte avec mes yeux que mon regard ne se posera pas sur une vierge. Tu vois le degré de sa consécration. La question qu'on doit se poser, à quel niveau est ta consécration? Que Dieu nous bénisse.
Amen. Merci beaucoup, Papa Stéphane. Alors, il y a un autre jeune qui a posé cette question et j'aimerais vraiment que Papa Stéphane commence à intervenir à cette question. Et le jeune a dit ceci, je voudrais juste savoir dans quel passage biblique l'on dit que Vashti était appelé pour exposer sa nudité devant les invités du roi Assérus. Voilà la question qu'un jeune a posée et il aimerait vraiment avoir la clarté sur ça. Bienvenue, Papa Stéphane, pour l'éclaircissement.
Amen. Merci beaucoup. Je me rappelle de mon intervention. Dans Esther chapitre 1, le verset 11, la Bible dit, le verset 10, au septième jour, comme le cœur du roi était réjoui par les vins, je saute, la Bible dit, le verset, ok. Il ordonna à ses eunuques qui servaient devant le roi Assuérus d'amener à sa présence la reine Vashti avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Mais la reine Vashti refusa de venir, car elle reçut, quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi, et le roi fut très irrité et fut enflammé de colère. Alléluia.
Amen.
On est ensemble?
Oui.
Voyez-vous, lorsque vous lisez la Bible, il y a ce que dans la Bible, on appelle l'expression pudique de la Bible. Alléluia. La question était de savoir dans quel passage on écrit expressement que Vashti a refusé de venir montrer sa nudité. Quand vous lisez Esther chapitre 1, le verset 11, la Bible ne souligne pas expressément la nudité. Il y a, quand vous interrogez ou vous lisez la Bible, il y a ce qu'on appelle les expressions pudiques de la Bible. Et dans la Bible, il y a ce que l'auteur a dit, mais il y a aussi ce que l'auteur voulait dire. On est ensemble? Il y a ce que l'auteur a dit et il y a ce que l'auteur voulait dire. Il y a des dits et il y a des non-dits. Et ici, dans Esther chapitre 1, peut-être c'est ce que je n'avais pas pu mentionné ce jour-là, c'est l'aspect pudique de la Bible. Et avant peut-être de revenir ici, je veux aussi vous présenter un autre passage. Un autre passage, et il y en a beaucoup. Je vais même revenir sur un passage qu'on a demandé par rapport à David. Alléluia. Amen. Par rapport à David. La Bible dit, Dieu dit à David, tu ne me bâtiras pas le temple, parce que tes mains sont, tes mains ont du sang. Mais si à cet instant-là, tu prenais les mains de David, tu ne retrouverais pas la couleur rouge, la couleur du sang. Ok? Ça veut dire qu'il y a ce que l'auteur voulait dire au-delà de ce qui a été expressément dit. Ok? Alors, quand vous prenez Genèse, avant que je ne revienne sur Esther, Genèse 24, pardon, dans Genèse 24, le verset 1 et le verset 2. La Bible dit, Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'étendard de tous ses biens. Mais je te prie, ta main sur ma cuisse, sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel, le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite. Les textes originaux ici, quand Abraham appelle Éliézer de Damas et il veut l'envoyer en mission. Alléluia. Il veut l'envoyer en mission, il le fait gérer. Il le fait gérer, mais avant que Éliézer ne gire, Abraham demande de poser un acte. L'expression ici, on dit, mets ta main sous ma cuisse et gire-moi. Ça, c'est encore une expression pudique que la Bible a utilisée. Mais dans les textes originaux, il est dit, je vais aussi essayer d'être pudique. Ok? Je vais essayer aussi d'être pudique. Abraham était en train de dire à Éliézer de Damas, place ta main sur la partie de moi qui transmet la vie et dis-moi que tu ne prendras pas pour femme à mon fils des filles des Cananéens parmi lesquelles j'habite. Lorsque Assurus fait appel à Vashti. La Bible dit, il était ivre. il avait déjà atteint un niveau d'ivresse. Ça veut dire qu'en temps normal, Assurus ne pouvait pas faire cet appel. Ok? Et quand il appelle, il demande à ce que sa femme arrive. Toute la contrée ou toute la royauté savait que Vashti était belle. C'était connu qu'elle était belle. De figure, comme déjà certaines versions disent, elle était belle de visage. Et quand Assurus appelle Vashti, dans l'expression pudique de la Bible, on nous dit qu'il vienne exposer sa beauté. Sa beauté. Mais, dans les textes originaux, et c'est même la raison pour laquelle Vashti a refusé. Parce que cette demande ne rencontrait pas l'honneur même de Vashti. Et ce que j'étais en train de dire ces jours-là, c'était un peu montrer l'image qu'il y a. Il y a des choses que Vashti a refusées, mais qui lui a coûté toute une royauté. Elle a appris à dire non, même quand elle devra perdre beaucoup. Et j'étais en train de dire que malheureusement pour nous aujourd'hui, à notre siècle, nous sommes incapables de dire non à certaines propositions, à certaines sollicitations, à partir du moment où nous évaluons les intérêts que nous devons perdre. Alléluia. Je crois que j'ai répondu.
Okay, merci beaucoup. Merci beaucoup. Comme le temps est en train de passer, on ne saura pas vraiment avoir d'autres interventions, mais j'espère qu'on a tous compris. Soit le docteur peut nous éclaircir encore sur ces points avant de passer à d'autres questions. Ah, d'accord. Alors, il y a ici deux questions que je vais compiler ensemble parce que ça, elles vont dans le même sens. Les questions sont les suivantes. Quel comportement prendre pour vaincre les vices avec toute leur force d'attraction? Et il y a une autre question qui dit, comment tenir ferme dans les crises des manques, soit à des addictions? Ce sont là les deux questions que la jeunesse, que certains jeunes ont posées, et nous aimerions vraiment avoir des réponses. Quel comportement prendre pour vaincre les vices avec toute leur force d'attraction, et comment tenir ferme dans les crises des manques, soit à des addictions. Nous allons commencer par Papa Stéphane. Va intervenir, bienvenue.
Merci beaucoup pour le passage. Je voudrais, si vous permettez, lire un passage. 1 Corinthiens chapitre 6, c'est un passage que nous connaissons bien. Le verset 12, écoutez ce que Paul est en train de dire. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Le deuxième volet de la question, c'était par rapport à comment faire quand on est face à des manques ou on est face
à
des addictions. Je crois que Papa Abel, Docteur Abel a su répondre à cette question. Il dit, lorsque nous sommes en Christ, le Saint-Esprit se charge de nous communiquer de nouvelles passions, de nouvelles soifs, de nouveaux penchants. Et je crois fermement que c'est vrai, on est sauvé. Alléluia. On est sauvé. Mais il arrive des fois où des choses que l'on faisait nous réclamer. Amen. Hein? Des choses que nous faisions nous réclamer. Du reste, la vie chrétienne n'a jamais été une vie de facilité. C'est une vie de possibilités. Christ ne nous a jamais dit que ça sera facile. Mais tout ce que je voudrais peut-être dire, c'est lorsque l'on a abandonné certaines choses, personne ne nous a influencés pour l'abandonner. On ne nous a pas dit que si l'on n'abandonne pas, on va nous fouetter. C'était une résolution personnel d'abandonner cela. C'était en connaissance, c'est après avoir pesé les pour et les contre que l'on a dit j'abandonne cette vie. Ça veut simplement dire que l'on connaît ce que ça nous coûtait quand on menait cette vie. Et arrivé à un certain moment, on est fatigué et on en a marre. Et si par exemple, on se sent réclamé, bien sûr par les concombres et toutes les viandes de l'Égypte, mais il faudra aussi que l'on se rappelle qu'en Égypte, il n'y a pas que des concombres, il n'y a pas que des viandes, il y a aussi la servitude, il y a aussi des fouets. Pourquoi passer du temps à nous souvenir des concombres d'Égypte et d'oublier exactement le fouet, d'ailleurs, qui nous ont poussés à quitter l'Égypte? Je pense, peut-être pour ne pas monopoliser la parole, il faut voir ce que nous avons à perdre en faisant marche arrière. Alléluia. Et la Bible dit, je puis tout par Christ qui nous fortifie. Si nous pensons qu'il y a des choses que nous ferons par nous-mêmes, c'est là qu'à un moment donné, ça devient difficile. Très souvent, nous devons associer aussi la personne du Saint-Esprit. Que l'on se dise, à ce point ici, je suis faible. Viens, fortifie-moi, donne-moi une force de plus afin de vaincre ce qui est en train de se tenir au-devant de moi comme obstacle. Que Dieu nous bénisse.
Amen, amen. Merci beaucoup, Papa Stéphane. Nous écoutons les docteurs.
Merci pour la parole. À propos des addictions en particulier, si vous avez un problème d'addiction, vous devez savoir ceci. Vous ne pouvez pas vaincre une addiction seul. On ne vainc jamais une addiction seul. Si vous avez un problème d'addiction, acceptez un accompagnement pastoral et au besoin un accompagnement médical. C'est très important. Je ne connais pas un exemple de quelqu'un qui a vaincu l'addiction seul. L'ennemi a tendance à nous véhiculer ce mensonge. Non, hein, tu vas y arriver seul, prie seulement, hein, ça va passer. Le problème de certains péchés à la base de l'addiction, c'est le secret. Le secret va nourrir ce comportement que vous avez et vous allez finir par vous détruire et devenir hypocrite. Ayez l'humilité de vous ouvrir auprès de quelqu'un qui est plus sage que vous, qui est plus expérimenté que vous, et qui est discret et qui peut vous aider à en sortir. On ne vainc pas l'addiction en un jour. C'est un accompagnement. Vous avez besoin d'être conduit par un pasteur, un clinicien qui est spécialisé dans ce genre de problème. Le Seigneur vous bénisse.
Amen. Est-ce qu'on peut, acclamer très fort le Seigneur? Voilà, nous arrivons pratiquement à la fin de notre panel. Mais avant de clôturer notre panel, j'aimerais quand même que vous puissiez juste nous donner une petite conclusion face à notre série Vices et Vertus. Pour tout ce que nous avons entendu, tout ce que nous venons vraiment d'entendre cet après-midi, quel est le conseil que vous donnez à la jeunesse? Quelle est la marche que nous devons suivre par rapport à ce que le Seigneur a placé à vous pour nous enseigner? J'aimerais juste que vous puissiez nous donner juste un petit conseil ou une marche à suivre. Ça pourra nous aider. Qu'est-ce qu'on peut retenir dans tout ce que vous avez donné au peuple de Dieu? Je vais commencer encore une fois de plus avec Papa Stéphane et on va conclure avec les docteurs. Et puis nous allons finir cette session. Bienvenue, papa.
En tout cas, je n'aurai pas beaucoup à dire. La seule chose que je voudrais nous dire, c'est ceci. À partir du moment où nous avons accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, nous avons un appel à une vie de modèle. Il faudra qu'à un moment donné, que l'on arrive à donner à plusieurs des motivations nécessaires, des raisons nécessaires de suivre le Seigneur. C'est vrai que nous vivons dans une génération où le mal est en train d'être appelé bien et le bien est en train d'appeler mal. On a tendance, si vous remarquez, même dans notre société, à acclamer ceux qui font du mal et un peu comme à décourager ceux qui font du bien. À telle enseigne que ceux-là qui font du bien ont honte d'en faire. Mais je veux nous dire, ce n'est pas parce que le mal est commis par tout le monde que ça deviendra bien. Non. Le mal n'aura pas de dérogation parce que tout le monde a décidé de faire le mal. Mais je veux nous dire qu'il est possible dans un environnement souillé de ne pas se souiller.
Amen.
Il est possible dans un environnement rempli de vices, de se lever afin de vivre et d'exposer des vertus. C'est ce que même la Bible nous dit. Nous avons l'appel d'annoncer les vertus de celui qui nous a tirés du ténèbre à son admirable lumière. C'est ça notre appel. Et je prie que partout où tu seras, là où tu vis ou là où tu passes ton temps, que tu vives pleinement ton appel qui n'est autre que de manifester les vertus de celui qui nous a appelés du ténèbre à son admirable lumière.
Amen, amen, amen. Merci beaucoup. Oui, docteur Abel.
Merci, je vais essayer d'être... Il y a beaucoup de choses à dire, mais j'ai à cœur de partager en particulier ceci. L'inversion des valeurs à laquelle nous assistons, malheureusement qui a pénétré aussi l'Église aujourd'hui, c'est aussi en partie à cause d'une attitude que de plus en plus nous qui sommes dans l'Église, nous développons. C'est-à-dire quoi ? Nous avons développé une insoumission à la parole de Dieu. Comment ça se manifeste? Ça se manifeste par le fait que lorsque nous écoutons la parole de Dieu, nous écoutons la parole de Dieu et nous cherchons à valider cette parole par ce que quelqu'un d'autre, une star, nos amis, notre tradition, disent. Et nous sélectionnons le conseil de Dieu sur base de nos préférences ou des personnes qui ont une certaine image dans la société que nous admirons. Faisons attention, bien-aimés dans le Seigneur. Tout ce qui est exalté dans le monde est en désapprobation, est en inimitié avec Dieu. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que j'aimerais dire, vous n'allez pas vaincre les vices qu'il y a dans ce monde si vous ne choisissez pas correctement votre entourage. Si vous ne vous séparez pas des personnes qui ne partagent pas les mêmes objectifs, les mêmes affections que vous, ceux qui n'ont pas pour objectif la sanctification, vous n'allez jamais vaincre. Que le Seigneur vous bénisse.
Amen, amen. On va acclamer. Alors que les hommes de Dieu seront en train de regagner leur place, on va continuer à les encourager.